à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel. On est lundi 20 janvier 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Attaque d'une base des Nations Unies dans une ville reculée du nord-est du Nigeria, près du Cameroun. Les participants au sommet de Berlin sur la Libye promettent de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. Ouverture demain du procès de Donald Trump au Sénat. Il est accusé d'abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Célébration aux États-Unis de la journée Martin Luther King, l'occasion de revenir sur son combat pour les droits civiques. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et le sport, mais tout d'abord le journal. Au Tchad, 9 civils ont été tués dans un attentat perpétré dans la nuit de dimanche à lundi par une femme kamikaze dans l'ouest du pays, à Kaïga Kanjira, village régulièrement pris pour cible par le groupe djihadiste Boko Haram. Selon le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bermondoa, 2 femmes et 7 hommes sont morts dans l'attaque. Au Nigeria, des djihadistes ont mené une attaque qualifiée d'extrêmement violente contre une base des Nations Unies. Elle a été perpétrée au cours du week-end dans une ville reculée du nord-est du pays, près du Cameroun, une région en proie aux insurrections djihadistes de Boko Haram et de la branche ouest-africaine de l'État islamique. Les détails avec Jacques Aristide.
Des combattants islamistes sont arrivés samedi soir à Ngala à bord de camions équipés de mitrailleuses lourdes et ont attaqué le centre de coordination humanitaire proche d'un camp de déplacés où 55 000 personnes ont trouvé refuge. Les assaillants ont également utilisé des lance-roquettes RPG. Ils ont incendié des bâtiments et pillé de l'aide humanitaire. Les soldats qui protègent les lieux ont pu évacuer le personnel humanitaire vers leur base à proximité pendant que les combats se poursuivaient, d'après un employé humanitaire qui indique qu'aucun membre du personnel n'a été blessé. Selon l'ONU, 12 humanitaires ont été tués dans le pays l'an dernier et 2 sont toujours otages des djihadistes. Le camp de Ngala a été installé en janvier 2016 après le retour de milliers de réfugiés nigérians chassés du Cameroun. Le conflit provoqué par Boko Haram et l'ISWAP a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes depuis 2009.
En Côte d'Ivoire, les habitants du quartier populaire d'Adioufou quittent leur maison ce lundi avant qu'elle ne soit rasée pour instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan. C'est la conséquence de la découverte le 8 janvier du corps d'un enfant dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant âgé de 14 ans a escaladé un mur de l'aéroport puis s'est accroché aux roues de l'avion juste avant le décollage d'un vol Abidjan-Paris. La semaine dernière, les autorités avaient annoncé la création d'un périmètre de sécurité, une bande de 200 mètres autour de la clôture de l'aéroport. Le quartier d'Adioufou, qui compte environ 25 000 habitants, va donc être partiellement détruit et le début des opérations. C'est donc pour aujourd'hui. Au Soudan, des écoliers ont manifesté ce lundi dans la principale ville portuaire contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Arrêter cette faim, ont scandé les élèves en se dirigeant vers le siège du gouvernement de Port-Soudan. La hausse des prix des denrées alimentaires, notamment un triplement du coût du pain, a été le déclencheur de la révolte populaire qui a abouti à la destitution de l'ex-chef de l'État Omar el-Béchir en avril, après 30 ans de pouvoir. L'accord international annoncé à Berlin offre un cadre aux efforts de pacification de la Libye. Cependant, les divisions profondes dans le pays rendent très incertaine le cessez-le-feu entre les forces de Tripoli et celles du maréchal Haftar. Le point avec Eric Manirakiza.
Le flou qui entoure les résultats de la conférence de Berlin est accentué par le silence radio des deux protagonistes, le gouvernement d'union de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Les armes ont, à l'inverse, continué de crépiter par intermittence au sud de la capitale, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier. Des tirs d'armes lourdes ont aussi été entendus dans le centre-ville, avant le retour d'un calme relatif. Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar ont certes tous deux accepté de participer à la conférence de Berlin, mais ils ont refusé de se rencontrer, illustrant l'énorme fossé à combler entre les deux rivaux. L'Algérien est prêt à abriter le dialogue escompté entre les frères libyens, a déclaré le président algérien Abdelhamadjid Tebboune à l'issue de la réunion de Berlin. Les participants ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires libyennes. Les Européens tentent de convaincre l'Italie de relancer l'opération navale Sophia, suspendue depuis mars 2019 et qui vise à contrôler cet embargo.
En Éthiopie, au moins 10 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans l'effondrement d'une plateforme en bois. L'incident s'est produit à Gondar, dans le nord, lors de la fête éthiopienne de l'Épiphanie, Timkat, inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel en 2019. Le festival Timkat est une des fêtes les plus importantes pour les orthodoxes d'Éthiopie, qui représente environ 40% des 110 millions d'habitants du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est demain que débute au Sénat américain le procès en destitution du président Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain est accusé d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour que ce pays annonce une enquête au sujet de l'ancien vice-président Joe Biden, adversaire potentiel de Trump en novembre, et son fils Hunter. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le procès sera présidé par le juge John Roberts, président de la Cour suprême, avec l'ensemble des 100 sénateurs siégeant comme jurés. Des démocrates de la Chambre des représentants, dirigés par Adam Schiff, président de la Commission du renseignement, joueront le rôle de procureur. Ce groupe présentera les chefs d'accusation retenus contre Trump, à savoir abus de pouvoir et obstruction au Congrès. La défense du chef de l'exécutif sera assurée par une équipe d'avocats de renom comme le constitutionnaliste Alan Dershowitz de l'Université Harvard. Les avocats de la Maison-Blanche ont fait savoir que les chefs d'accusation s'appuient sur une dangereuse distorsion de la Constitution et doivent être rejetés d'emblée. Les sénateurs démocrates aimeraient appeler à la barre des témoins comme le secrétaire général par intérim de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, ou encore l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Les républicains penchent pour des témoins autres que ceux-là, comme Hunter Biden. Avec 51 sièges, les sénateurs républicains ont déjà la réponse, à moins que des élus républicains fassent défection pour voter avec les démocrates, ce qui est peu probable.
On reste aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la journée dédiée à Martin Luther King, le leader assassiné du mouvement des droits civiques. Yacouba Ouédraogo revient sur l'historique de ce jour férié.
Le 2 novembre 1983, le président Ronald Reagan a signé la loi créant un jour férié fédéral pour honorer la mémoire de Martin Luther King. Cette journée chômée et payée s'est fêtée le troisième lundi du mois de janvier, mois de la naissance de l'ancien leader américain. Au-delà de l'hommage national pour l'homme, Martin Luther King Day est aussi le jour des droits de l'homme et de l'égalité pour tous. L'engagement de Martin Luther King pour les droits fondamentaux des Afro-Américains lui a valu d'être désigné prix Nobel de la paix en 1964. Un an auparavant, il avait prononcé son fameux discours devant plusieurs milliers de personnes rassemblées sur le Mall, la grande esplanade au cœur de Washington.
I have a dream that one day...
Né à Atlanta en 1929, Martin Luther King était un pasteur baptiste qui a consacré sa vie à la lutte contre la ségrégation raciale. Militant pacifique, il a été assassiné par balle le 4 avril 1968 à Memphis, alors qu'il y soutenait une grève des boueurs. Sa mort a entraîné des émeutes et plus de 100 000 personnes ont assisté à son enterrement.
I have a dream. Le chef de la diplomatie des États-Unis, Mike Pompeo, a appelé la communauté internationale à continuer de soutenir les efforts pour en finir avec ce qu'il appelle la tyrannie du président vénézuélien Nicolas Maduro. Le monde doit continuer de soutenir les efforts du peuple vénézuélien pour revenir à la démocratie et en finir avec la tyrannie de Maduro, qui a un impact en Colombie et dans toute la région, a déclaré le secrétaire d'État américain après un entretien avec le président colombien Iván Duque à Bogota. Les autorités libanaises ont dénoncé ce lundi la présence d'infiltrés parmi les manifestants et défendu l'action des forces de sécurité après un week-end d'affrontements qui ont fait plus de 500 blessés plutôt. Samedi et dimanche, la police anti-émeute déployée à l'entrée d'une avenue menant au Parlement dans le centre-ville de Beyrouth a tiré des balles en caoutchouc, des grenades lacrymogènes et utilisé ses canons à eau pour repousser les manifestants. Ceux-ci leur ont lancé des pierres, pétards et parfois des panneaux de signalisation. La Serbie et le Kosovo ont fait un premier pas pour rétablir les vols directs entre leurs deux capitales. Cette avancée sous l'impulsion de Washington est un rare signe de bonne volonté plus de 20 ans après la guerre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par
la Minute Éco. Les travaux du pont Brazzaville-Kinshasa ne commenceront pas en août prochain, comme l'avait annoncé la Banque africaine de développement. La publication de l'appel d'offres est prévue pour le 31 juillet 2020, a déclaré le ministre des Grands Travaux au Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Bouya, en marge de l'annonce d'une table ronde d'investisseurs à Brazzaville qui sera organisée en mars pour lever 2,5 milliards d'euros destinés au financement d'infrastructures. La Banque mondiale finance un projet d'autonomisation des femmes et soutient des investissements et des infrastructures routières et ferroviaires au Niger. Selon l'institution, les discussions avec le gouvernement nigérien portent également sur l'agriculture, l'eau, l'éradication de la pauvreté et le développement numérique pour créer des emplois et de plus grandes opportunités pour des jeunes du Niger. Pour terminer, le président mozambicain Filipe Nyusi exhorte les nouveaux membres du gouvernement à revitaliser l'économie en combattant la corruption. Toute activité économique devra créer des opportunités d'emploi. Le ministère de l'économie et des finances doit assurer la rigueur dans ses dépenses de l'État. Le ministère de l'agriculture devra se concentrer pour atteindre la fin zéro par une production et une productivité accrue.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir et bon retour.
Merci et bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
Attilio Viviani est le premier maillot jaune de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo.
Oui, l'Italien a réglé le peloton au sprint au terme de la première étape courue entre Bitam au Gabon et Eboloa au Cameroun, 149 km. Il s'est imposé devant le Français Lorenzo Manzi et l'Érythréen Biniam Djermé. Attilio Viviani endosse ainsi le premier maillot du leader de classement général. Il possède 3 secondes d'avance sur l'Érythréen Dawit Yemani et 4 sur Manzin. La Tropicale 2020 se poursuit demain avec la 12e étape entre Bitam et OM, 110 km. 90 coureurs ont pris le départ de cette course qui ouvre la saison cycliste.
Football avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu demain au Caire.
Oui, la CAF a présenté les pots, 40 équipes réparties en 10 groupes de 4 chapeaux. Dans le premier figure, bien sûr, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, le Mali et la République démocratique du Congo. On a dans le pot 2 le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Gabon, le Bénin, la Zambie et le Congo. Et puis Madagascar, la Mauritanie, la Libye, le Mozambique, le Kenya, la République centrafricaine, le Zimbabwe, le Niger, la Namibie et la Guinée-Bissau sont logés dans le pot 3. Et enfin le Malawi, l'Angola, le Togo, le Soudan, le Rwanda, la Tanzanie, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Libéria et Djibouti composent le pot 4.
Sébastien de Sabre revient aux commandes du Wydad Athletic Club.
Sans contrat depuis son départ du Pyramide FC en Égypte, Sébastien de Sabre a rejoint le Wydad Athletic Club. De Sabre s'est engagé pour 2 ans et demi en faveur de l'actuel dauphin de la Botola, le championnat marocain de première division. Il remplace le Serbe Zoran Manolovic, limogé il y a quelques jours. C'est le second passage de l'ancien sélectionneur de l'Ouganda au WAC. Déjà, lors de la saison 2016-2017, il a fait un bilan de 9 victoires, 6 nuls et une défaite en 16 matchs.
Villarreal et l'Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert de Karl Toko Ekambi.
Et oui, d'après l'AS, l'international camerounais est déjà présent à Lyon pour sa visite médicale, tout en confirmant les 20 millions d'euros fixés dans le cadre du prêt avec option d'achat de Karl Toko Ekambi.
Le quotidien espagnol indique qu'il s'agit d'une option d'achat obligatoire avec différents bonus liés aux performances du joueur et un possible pourcentage sur un futur transfert. Pendant ce temps au Kenya, Denis Oliech raccroche enfin les crampons. Le recordman de but en sélection, 35, n'a passé que 8 mois avec son dernier club Gor Mahia. Limogé pour absence répétée à l'entraînement, il a décidé de stopper sa carrière de footballeur.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, les travaux de la quatrième session du comité de suivi de l'accord d'Alger s'est déroulé hier. La rencontre a porté sur le retour des forces armées à Kidal et la relecture de certaines dispositions de l'accord. Les éléments des forces armées maliennes qui doivent être déployés à Kidal sont déjà à Gao. Les participants ont aussi discuté du lancement d'un fonds de développement des régions du nord au Mali. À Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Cette quatrième session ou session de reprise a été présidée par Rachid Bladhan, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger de l'Algérie. Il a apprécié la mise en œuvre de l'accord à travers le volet défense et sécurité.
Nous nous félicitons de nouveau des avancées relatives au programme de DDR accéléré devant concerner les ex-combattants destinés au mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, Gao et Tombouctou. Les parties maliennes se sont également entendus le 28 novembre 2019 dans le cadre de la commission technique de sécurité sur leur déploiement au titre des premières unités de l'armée reconstituée. Nous espérons que tout soit mis en œuvre pour que ces éléments soient dotés d'équipements adéquats.
Il s'agissait de la première réunion depuis septembre 2019 du comité de suivi de l'accord d'Alger qui prévoit le désarmement des mouvements rebelles et leur intégration dans les forces armées maliennes. Mamad Saleh Anadif, patron de la ministre.
Cette session se tient à un moment crucial pour la relance du processus de paix au Mali, mais également pour la paix au Sahel, notamment après la tenue du dialogue national inclusif, mais aussi le dernier sommet de Pau. L'intérêt que les partenaires du Mali, les pays voisins du Mali, restent mobilisés et attachent une importance capitale à la paix et à la stabilité dans la sous-région.
Selon le ministre malien des Affaires étrangères, la rencontre s'est bien passée. Il a été question du déploiement des forces armées maliennes dans le nord, de manière générale et en particulier à Kidal. Tcheblen Drami.
Il y a aussi une réelle espérance que nous sommes dans une nouvelle étape, dans un tournant du processus de stabilisation et de paix au Mali.
Cette réunion du comité de suivi s'est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères des 4 des 5 pays membres du G5 Sahel. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso.
Nous sommes là pour saluer la nouvelle dynamique créée par à la fois le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, et également toute la dynamique créée autour du retour de l'armée à Kidal.
La session du comité de suivi s'est tenue à la veille du 20 janvier, date de la célébration de la fête de l'armée malienne. Occasion pour le président Ibeka de remercier les alliés du Mali.
Et aussi, j'ai aimé une chose aujourd'hui, l'hommage qui a été rendu à nos forces alliées, qui se battent avec nous, qui perdent des hommes ici sur le sol malien. Le devoir de défense, de reconnaissance, de gratitude s'impose à leur égard.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, à votre avis, ce lundi à 18h05 sur VOA Afrique. C'est jour férié aujourd'hui aux États-Unis pour le Martin Luther King Day, une journée qui remet sur le tapis plusieurs questions qui ont marqué la vie et le combat du militant non violent pour le mouvement des droits civiques, les injustices, le racisme et la discrimination aux États-Unis. Le rêve de Martin Luther King reste-t-il à réaliser? Laissez-nous vos numéros de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 2633.
Ah, Les ravages des accidents de la circulation au Sénégal. Chaque année, plus de 600 morts sont enregistrés et les facteurs humains sont responsables à 80% d'après les autorités de la sécurité routière. Course-poursuite, excès de vitesse sont entre autres les causes de ces nombreux accidents mortels qui ont fini de créer un sentiment d'insécurité routière au sein de la population. De notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagay.
Dakar est devenu le théâtre d'accidents spectaculaires et particulièrement meurtriers. Le dernier à date a fait 3 morts et 7 blessés graves, des victimes malheureuses d'une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques. Un cas loin d'être isolé est causé par plusieurs facteurs d'après le vieux Abdou Bodian.
D'abord le facteur de l'octroi des permis, ensuite aussi le manque de civisme, le manque au niveau de l'État, quand il y a une faute, les fautes le plus souvent ne sont pas réprimés à leur juste titre. Et aussi, quand un gars qui est en infraction, on l'amène à la justice, 2 jours après, on le relâche. Donc tout ça, c'est des facteurs qui jouent en faveur du banditisme au volant et aux yeux du manque de respect du code de la route.
Une situation qui interpelle également les usagers des transports en commun. Pape Amadou Diop indexe l'attitude des chauffeurs et remet en question la compétence de certains d'entre eux.
Il y a des chauffeurs qui sont formés, qui ont leur permis, mais qui ne respectent pas les codes de la route. On voit des chauffeurs tatars qui font la course. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils font la course, ils font de n'importe quoi, alors qu'ils ont leur permis et autres. Il y a aussi d'autres cas, des gens qui n'ont pas de permis, des apprentis comme on les appelle, qui viennent, qu'on leur donne des voitures, ils conduisent sans avoir de permis. Ça aussi, ce sont des causes d'accidents. Quand je dis qu'il y a des apprentis qui conduisent sans avoir de permis, ça signifie qu'il n'y a pas de surveillance.
Au-delà du manque de surveillance, c'est la prolifération d'établissements non autorisés qui exacerbe le problème de l'insécurité routière et inquiète les formateurs agréés par l'État. Les auto-écoles ne sont pas tous en conformité avec la législation, comme l'indique Mamoudou Fall, moniteur agréé d'auto-école.
Il y a beaucoup d'auto-écoles et certains sont des clandestins. Certains conducteurs ne passent même pas dans les auto-écoles pour apprendre à conduire. Certains responsables des auto-écoles profitent de cette situation pour arranger le permis à des conducteurs qui n'ont pas le niveau. Une situation qui se passe ici au service des mines, des gens qui n'ont ni permis et qui ne savent pas conduire, encore moins apprendre le code de la route. Cette situation ne favorise que les accidents.
Pour remédier à la défaillance de certains maillons de la chaîne de la sécurité routière, l'État du Sénégal a procédé au remplacement total et à la numérisation des permis de conduire pour garantir plus de transparence dans l'octroi des permis et ainsi impacter positivement sur la sécurité routière. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le procès en vue de la destitution du président Donald Trump commence demain au Sénat sous contrôle républicain. Les démocrates de la Chambre des représentants vont présenter leurs arguments contre le président. Les sénateurs ont solennellement prêté serment devant le chef de la Cour suprême. Le point avec Lionel Gaïma.
John Roberts, président de la Cour suprême des États-Unis.
Que tous les sénateurs se lèvent ou restent debout et lèvent la main droite.
John Roberts est entré dans l'histoire jeudi dernier au Sénat. Il a assermenté les femmes et les hommes qui seront les jurés dans le procès du président américain. Après celui d'Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, ce sera le troisième procès d'un chef de l'exécutif dans l'histoire des États-Unis. Les sénateurs ont prêté serment d'impartialité, mais le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a révélé qu'il travaille main dans la main avec la Maison-Blanche. Adam Schiff est le chef de cette procureure démocrate.
Imaginez que vous êtes un juré et le juge entre dans la salle d'audience et dit « Regardez, j'ai été en consultation avec l'accusé. Nous avons convenu que je ne laisserai pas l'accusation appeler des témoins. Je ne laisserai pas l'accusation montrer un seul document. Aucun juré n'a jamais entendu ce genre de choses venant d'un juge, car ce serait absurde. »
Le président Donald Trump a de nouveau répété qu'il n'a rien fait de mal lors d'une conversation téléphonique en juillet avec le président ukrainien dans lequel il semblait demander une enquête sur un rival politique. À l'époque, le président Donald Trump avait bloqué 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine approuvée par le Congrès. L'équipe de défense du président fait valoir que la mise en accusation et le procès n'aurait jamais dû avoir lieu, car l'aide à l'Ukraine a finalement été débloquée sans l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. Alan Dershowitz, avocat à la défense du président Trump.
Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui est inculpé pour un crime, nous supposons que vous avez beaucoup de preuves, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez beaucoup de preuves, cela peut aller dans les deux sens, mais le vote visait une mise en accusation pour abus de pouvoir, ce qui ne correspond pas aux critères constitutionnels pour la mise en accusation.
Les démocrates veulent appeler des témoins au procès devant le Sénat depuis que la Chambre a déposé les chefs d'accusation. Les républicains disent « niet », accusant les démocrates de confondre vitesse et précipitation.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est un jour férié aux États-Unis. C'est en mémoire de Martin Luther King Jr. Cette journée tombe toujours le troisième lundi de janvier. Martin Luther King était un important défenseur des droits civiques et s'est battu contre la ségrégation raciale. Prix Nobel de la paix, il a été jusqu'à son assassinat un ardent défenseur de la non-violence. Et pour en parler, Eric Manirakiza a joint en France Athanase Karayenga.
Mais son héritage principal, c'est la force de la conviction de son combat, la force de la cause, l'énergie avec laquelle il s'est investi. Ce n'est pas seulement sa liberté personnelle, c'est la liberté de les droits civiques de toute la communauté, pas seulement de la population noire américaine, mais c'était en combattant pour les libertés de tout être humain. C'est quelqu'un qui avait une forte conviction, qui a réussi à mobiliser des millions de gens aux États-Unis, mais aussi dans le monde, et qui a laissé à l'humanité une approche extrêmement déterminée, mais efficace, de l'utilisation de la non-violence pour aboutir à la déclaration des droits imprescriptibles de chaque être humain.
Est-ce que le rêve de Martin Luther King reste encore à réaliser?
Il me semble avoir lu quelque part une anecdote qui en dit long sur l'état d'esprit des États-Unis, même au niveau du gouvernement. Le soir où il a déclaré le fameux « I have a dream », j'ai un rêve, le président Kennedy, John Kennedy, était avec son frère Robert Kennedy, tous deux d'ailleurs qui ont été assassinés aussi. Et donc, les deux frères écoutaient Martin Luther King et l'un des deux, et je crois qu'on dit que c'est Robert Kennedy qui aurait dit « You should wake up », vous devriez vous lever. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, cette invitation qu'il faut se réveiller, elle est valable aujourd'hui parce que le populisme est en train de gagner partout dans le monde. Le populisme des gouvernements qui veulent se pérenniser au pouvoir et qui ne veulent plus rendre compte aux populations, aux électeurs, et la démocratie est vraiment en danger. You should wake up. Nous devrions tous nous réveiller et prolonger son combat.
Est-ce que sur le continent africain, vous connaissez des leaders qui ont utilisé sa stratégie pour transformer leur société?
Oui, bien sûr. Martin Luther King a fait beaucoup, beaucoup d'adeptes. Il y a Mandela, évidemment, c'est la première figure qui vient à l'esprit. Il y a aussi d'autres personnalités comme Rwagasore, le prince de Rwagasore au Burundi. Il a réussi à conduire le pays à l'indépendance tout en sauvegardant la paix et tout en gardant une grande distance par rapport à la violence. Alors qu'il y avait des pays à côté, comme le Kenya, les Mahomas, ont été malheureusement obligés d'utiliser la violence. Plus tard, on a eu des hommes politiques aussi comme Nkrumah, même Gandhi, qui avait commencé son combat en Afrique du Sud. Gandhi a réussi le pari extraordinaire de conduire la grande Inde à l'indépendance. La non-violence, elle est un outil extraordinaire pour arriver à faire triompher sa cause.
Voilà, c'était l'analyste politique Athanase Karienga, joint en France. Et c'est ce qui met fin à cette édition, mise en onde par Lionel Gaïma. À la console, il y avait Nick Ivanov. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.